La grande question qui va être posée au psychanalyste, c'est par rapport à cette souffrance-là, comment il va se débrouiller avec ce que lui, il pense, le psychanalyste. Et là, on peut faire d'emblée la référence aux stoïciens, donc à Sénèque. Mais évidemment, les stoïciens de la période antique. Là, je suis Lacan, c'est-à-dire le fait que les stoïciens, par rapport à tout ce qu'ils ont apporté, ont été, on pourrait dire presque lacaniens, dans le sens où ils ont bien différencié le signatum, le signifié, et le signance. C'est-à-dire un participe passé, qui est signifié, quelque chose qui est, qu'on va appeler la mort du signe. La mort du signe. C'est défini, c'est limité, il n'y a plus rien à dire, c'est compréhensible, c'est la pensée. Et puis le signance, qui est donc un participe présent, est une présence, et qui est très proche de ce que Freud, si on voulait faire comme ça des passages, a appelé l'attention flottante. Autrement dit, alors, la question qui est en jeu, l'analyste, quand il est en scène, scène, bien sûr, il est là pour être dans la position, on va dire, du signance, c'est-à-dire pas surtout pas du signatum. Donc je laisse de côté cette dimension-là, parce que ce qu'apprend une psychanalyse à quelqu'un qui l'a fait, si s'est passé quelque chose de l'ordre de l'affranchissement, c'est que la pensée est trompeuse et voire fallacieuse. C'est-à-dire que dès qu'on pense, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à penser. Mais on sait que dès qu'on pense, que je le fais actuellement, pour vous parler, je suis dans un univers de mort du signe. Voilà. À partir de là, qu'est-ce que c'est que là, la psychanalyse ? Et la dimension politique. Mais pas au sens.
Quand on essaye d'échapper à ce qu'on va trouver lourdingue, qui va complètement plomber le jeu, etc., c'est bien à une jouissance de quelque chose. C'est-à-dire, au fond, à une jouissance d'un certain pathos. Tu vois ? Mais pour moi, il y a un lien là, avec l'analyse, puisqu'on cherche un pathos. Pas au sens de plaisir, hein, mais oui. Comment on s'y retrouve ?
Oui, c'est pas l'analyse.
Non. Jouissance, il n'y a rien à voir.
On revient aux stoïciens, parce que les stoïciens ont été barrés. Pas justement l'hédonisme qui est arrivé après, c'est plus rien, etc. C'est pas de ça. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans l'univers grec est finalement un univers mécanique. Hein, on a hérité de tout ça, la pensée, la géométrie, le mori juridique, tout ça, le plan, tout ça, on est là-dedans. Oui, c'est que la scène, effectivement, elle va basculer, l'univers de pensée de l'humain va basculer à la fin du 19e, quand en physique apparaît quelque chose qui n'est plus la physique, qui vient de physique grecque. En musique apparaît aussi une autre référence, la musique de Ligabuma. Apparaît en mathématiques exactement pareil, Cantor. Il y a toutes sortes de choses qui se passent fin d'année et la psychanalyse apparaît aussi à ce moment-là. Donc il s'est passé quelque chose, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que Freud, qui à ce moment-là a une certaine docilité vis-à-vis des hystériques, où il entend un certain nombre de choses, ben, il va rendre compte de ce qu'il entend à partir de ce qu'il pense. Donc c'est, quand on dit Freud, on comprend très bien. C'est bien. Et celui qui nous a transmis Freud, c'est Lacan. Quand on lit Lacan, c'est autre chose. Et là, c'est comme ça que je pense à la jouissance. Alors, moi je voulais dire un mot donc, sur mes idées. Alors je vais vous dire des choses qui vont alors vraiment vous faire sauter en l'air, parce que je ne vais pas du tout vous dire les choses habituelles. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je ne vais pas faire l'accusation, parce que tout ça c'est de la pensée. C'est de l'idéalisation, hein, évidemment. Mais à partir du moment où on pense, eh bien on pense en regard de l'idéalisation. Ça ne peut pas être autrement. On appelle les fonctions logiques, etc. Ce qui m'a semblé Et je pense que ça va peut-être pointer cette question, effectivement, de la scène, du théâtre, de la psychanalyse, et tel que, comme vous le disiez, c'est ouvrant par un. Pourquoi c'est ouvrant par un? Ce qui peut se passer dans ce qu'on appelle le discours analytique, discours analytique que Lacan écrit avec des lettres, comme en mathématiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui... C'est un jeu de lettres, donc il n'y a pas de sens. Chacun se débrouillera avec. Et il fait changer les positions de quatre lettres pour essayer de définir différents types de discours. Donc ça, au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire c'est ça. Et il sort une formule, au même moment, dans les années 73, c'est dans étourdi, D-I-T, pas D-I, D-I-T, étourdi, à lire comme on veut, je te demande de refuser ce que je t'offre, parce que ça n'est pas ça. Et c'est apprendre, j'essaie de vous dire comment c'est apprendre, comme il le dit, il fait référence à ce qu'il appelle là, dans le langage de la métonymie, en disant ceci. Vous savez, je parlais de la question de Amédée ce matin, le petit A, c'est un peu nous le petit A, à savoir que l'objet petit A, ce qu'on appelle l'objet pas du désir, l'objet, par exemple, la voix qui nous plaît ou qui nous plaît pas, ça c'est l'objet du désir, c'est le son. La voix comme objet cause du désir, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, peut-être un petit peu le préciser, mais bon, je ne sais pas si on pourra en dire beaucoup plus, parce que moi j'en parle beaucoup sur mon site, dans mon séminaire, parce que je mets tous mes séminaires en vidéo sur mon site, et je travaille beaucoup ces questions-là. Eh bien, ce qui est au cœur de l'humain, dès qu'il parle, parce que nous sommes des êtres parlants, il dit des animaux parlants, pour bien préciser qu'on n'est pas du tout dans une idéalisation, nous sommes des animaux parlants. Eh bien, dès que je parle, j'entre dans quelque chose que Reto va définir comme étant la demande. Et je demande quoi? Je demande finalement, à travers tout ce que je peux dire, je demande l'être de l'autre. L'être. C'est ça que je demande, l'amour, l'être au sens de l'amour. Et la perspective de toute demande, c'est que, et donc je ne sais pas, c'est que il y a un vide que va cerner la demande. Un vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce qu'il appelle l'objet petit a, qui n'a pas d'idée, qui n'a pas d'être. Et c'est ça, en fait, qui est en jeu dans toute demande. Et ça, on ne peut pas dire ce que c'est. Donc, et pour s'en rendre compte, il suffit de prendre une phrase qu'il a fabriquée, ça lui est venu comme ça, un peu à un moment, celle que je viens de dire. Je te demande quoi? De refuser quoi? Eh bien, ce dont il s'agit, parce que c'est autre chose, c'est-à-dire parce que ça n'est pas ça. Et ça entendre comme ça, il fallait du temps pour l'entendre. Surtout pas au niveau du sens, parce qu'on pourrait penser que ça, c'est quand même du sens. Je te demande de refuser ce que je t'offre parce que c'est... Non. La métonymie, c'est une pure continuité assurée du début à la fin de la phrase. Ce qui fait qu'on ne sait pas quand se termine la phrase. En fait, et il a travaillé beaucoup là-dessus, il a appelé ça la suspension. Donc ça, là, on est très proche, je pense, du théâtre, de l'opéra, enfin, toutes ces choses. Donc, on ne sait pas quand se termine la phrase. Et néanmoins, la métonymie, c'est simplement le déroulement de ça, et c'est ça la jouissance. La jouissance, c'est de ne pas être pris par le sens. Alors on va écrire jouis-sens. Et je me rends compte en essayant d'expliquer qu'évidemment je suis à côté, parce que j'essaie de vous faire comprendre quelque chose. Et c'est ça qu'on me fait. Enfin, moi, c'est une expérience que je découvre depuis 2-3 ans dans le champ lyrique. Il s'agit effectivement de dérouler quelque chose en aérant, en faisant vibrer quelque chose dans la voix. Dans la voix, et finalement, évidemment, quand on parle, on chante, mais quand on chante, on parle, à condition que ce soit, on regarde ça. Donc c'est la pure métonymie qui conduit à cette dimension de la jouissance. Autrement dit, un psychanalyste, dans le discours analytique, s'il est dans cette position-là, qui est celle de l'objet petit à cause du désir, et puis il met dans le discours analytique la position de la jambe, alors du nouveau peut advenir. Ce nouveau sera assez distant. Mais il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Et ça arrive parfois, à quelques moments d'une psychanalyse, dans les meilleurs cas, si ça peut arriver. Autrement, on est dans la pensée, parce que c'est normal, on est dans l'élaboration secondaire, au refoulement, c'est normal. Donc voilà, donc c'est un peu là qu'il y a quelque chose. Par rapport à ça, il me semble que, pardon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est tout à fait intéressant, mais on peut aussi tirer ça autrement, à partir, je dirais, de notre langue maternelle, et notamment à partir de ce que ne peut pas tirer Descartes, quand il dit « je pense, donc je suis », c'est-à-dire que le « je suis », et là je fais référence à l'accord le 1er novembre 1974 à Rome, dans ce qu'on appelle la troisième, qui évidemment n'est pas la troisième de la seconde et de la première. La troisième, si on la prend comme ça, on n'a rien compris. C'est la dimension du 3, de ce qui fait 3. J'en parlais ce matin avec de ce qui fait 3. C'est-à-dire le réel. Le réel, c'est ce qui fait 3, mais qui est insaisissable en tant que tel. Eh bien, s'il peut arriver que, au moment même où Catherine a insisté sur autre chose, mais chacun insiste sur autre chose, sur le je suis là. Si, qu'est-ce qui est en jeu dans ce « je suis » qu'est-ce que le discours analytique peut être en jeu dans ce « je suis » si je ne suis pas pris par « maintenant je suis mêlé » Est-ce qu'il peut y avoir autre chose? Mais il peut y avoir ce qu'on appelle, alors c'est vraiment ce que Lacan appelle la langue en un seul mot, c'est-à-dire quelque chose qui est un jeu de l'être, c'est-à-dire l'inconscient en acte, qui pourra être, par exemple, Lacan en parle à partir de Descartes, « maintenant » se jouit, et de je suis ou je suis à se jouit, il y a exactement les mêmes lettres, la seule chose, il y en a deux qui changent de place. C'est ça la conscience. Autrement dit, c'est quelque chose qui se joue et se jouit quelque part dans le rapport qu'on a à la parole, dans ce moment-là, quand on est parlant, c'est-à-dire quand on est dans ces trois dimensions, réelle, symbolique, imaginaire, et à un moment, il y a quelque chose qui apparaît. Voilà l'apparition du réel. L'apparition du réel, ça va être que il pourra être dit après que quand je disais je suis, il y avait en fait une forclusion du se jouir. Et on est, si vous essayez de comprendre ça, on est à côté. C'est quelque chose qui est entendu ou qui n'est pas entendu. Je dirais plus particulièrement comme à l'opéra, ou pas. Donc, rien à dire. Mais la jouissance, pour un psychanalyste qui réfère à Lacan des années, insiste bien, il ne le dit pas en 64-65. Hein. Ça, il le dit 72, 73, 74, c'est-à-dire séminaire encore, les noms du père, l'étourdi, télévision et radiophonie. Il y a tous ces textes-là derrière des années, à mon avis, qui sont très importants, où il remet en cause tout ce qu'il a dit avant. Et derrière ça, il y a quoi ? On va arriver à m'aider. Derrière ça, il y a le fait qu'il avoue le 21 avril 1974, au début de son séminaire, qui est une des dernières conférences des noms du Père, il dit « Jusqu'à maintenant, je ne me suis pas rendu compte qu'il y a un lien étrange entre le sexe et la parole. » Il faudrait partir un peu des différentes identifications sexuelles, c'est un peu compliqué, mais au moment même où se jouit apparaît, c'est la question du féminin qui est en acte. Ça n'a rien à voir avec les caractères sexuels, primaires ou secondaires, que l'anatomie nous les définit. Rien du tout. Et c'est ce qu'on appelle, avec lui, à ce moment-là, est touché, parce que nous sommes égarés par rapport à ça, et nous ne pouvons toucher qu'une petite partie, ce qu'il va appeler la jouissance de l'autre, c'est-à-dire le corps, la jouissance du corps. C'est ça. Alors, moi, si j'ai quelque chose à dire par rapport à ce que vous dites, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse dans la voix humaine. Mmh. Voilà, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais voilà. Je pense que quand on va à l'opéra, pourquoi pas au théâtre, sans le savoir, je pense que c'est pour comprendre quelque chose. Parce que le réel enjeu, là, c'est mon expérience, c'est quelque chose qui s'entend. Ça s'entend. ça s'entend, et ça s'entend notamment dans le silence. Et le silence, c'est pas du tout quelque chose de... C'est pas quelque chose de mort, au contraire. Ce qui est mort, c'est le signe.
Dire, quand on se posait cette question ce midi, mais c'est quand même deux hommes qui écrivent ça. Et ils l'écrivent, justement, c'est fascinant comment ils sentent la question du féminin. C'est-à-dire que... je pense que la grande erreur, ce serait à travers le personnage de Médée de revendiquer quoi que ce soit.
Mais évidemment, justement, il y a
pas... Je pense qu'on n'est pas du tout sur ce terrain-là, mais d'entendre ce qui se dit du féminin, et là on est hors question homme-femme, mais on est dans ce qui est vertigineux, un abîme du
temps
et qu'on a là.
Pas ce qui se dit. Dès qu'on est dans le dit, on est dans un savoir masculin. Ça, c'est l'enseignement de Lacan. Mais la fonction phallique. Dès qu'on est dans l'entend, on est dans le signifiant. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Et on est dans la dimension du corps. Oui, c'est pas du tout les mêmes choses. Ça ne se rencontre pas, sauf au niveau de cet objet petit-là qui nomme le plus de joie. Alors, je vais pas faire beaucoup de... Attendez, laisse-moi finir. Bravo. Il y a deux hommes qui ont traîné ça, je vais vous dire, yes. C'est Freud et c'est Lacan. Freud, il vient cogner sur une question. C'est très simple. Il s'incline là-devant. C'est... Was will das Weib? Il ne peut pas arriver à penser que ce n'est pas Was will das Weib. C'est Was will ein Weib. Que veut une femme, non pas la femme. Et toute la réponse de Lacan va être ça. Lacan, il parle, il le dit dans le séminaire, il part de là. Pour définir ce que lui, il appelle le séminaire. Le féminin, ce n'est pas une histoire d'état civil, le féminin. C'est un rapport, effectivement, au langage très particulier, qu'on soit homme ou femme. Je crois qu'on peut être encore bien plus radical que ça. On parle de la femme. Désolé, on parle de la femme. Lacan s'est évertué avec cette histoire-là. La femme, une femme. C'est quand même pas par hasard. Ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, j'ai dit que je vais vous dire des choses assez particulières. Alors ça fait sauter certaines choses que j'ai essayé d'introduire. C'était une femme. En disant que la question du féminin touche autant l'homme que la femme qui sont sur l'état civil. Bon. Si on n'est pas d'accord avec ça, effectivement, j'ai plus rien à dire. Et la psychanalyse n'a plus rien à dire. C'est la psychologie appliquée aux données conscientes. Voilà. L'inconscient, c'est pas ça du tout, pour moi. Bon. Alors, je pense que Freud, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Freud, il s'est cogné toute sa vie, tout ce qu'il a élaboré sur la sexualité infantile, c'est à partir de qui ? Des relations entre la mère et le gars. Il n'a jamais parlé des filles. Donc, tout ce que la psychanalyse qui se réfère à Freud, et uniquement à Freud, au dit de Freud, pas au dire, évidemment on trouve autre chose dans le dire de Freud, est une référence, est une conceptualisation des rapports de l'humain, qui sont des rapports entre la mère et l'enfant. Et l'enfant, fille, à l'image du garçon. Il faut dire ça, c'est ça la limite de Freud. Donc, on peut raconter Freud, pulsion de vie, pulsion de mort. Et c'est ce que vous dites, en fait, d'une certaine manière. Donc, et notre civilisation, elle est prise là-dedans, parce que Freud, il a trouvé ça, évidemment, en écoutant. Hein. Et c'est ça la mort du signe. Je suis désolé, c'est ça, comment dire. C'est-à-dire que si on est garçon, on est comme ça. Si on est fille, on est comme ça. Donc, de toute manière, avec ça, on n'en sortira jamais. Hein. Et il y a, effectivement, chez les gars, chez les mecs, c'est moi, je suis de ce côté, là au niveau de l'état civil. Sénèque, c'est un homme. Euripide, c'est un homme. Et c'est très important. Et ils ont élaboré quelque chose de l'ordre du bic, qui est un savoir masculin, pas sur la femme, sur la mère. Il n'y a pas la femme dans BD. Si, moi, je voulais dire un peu ce qu'était la femme, mais je crois qu'il y en a qui vont sauter en l'air. Je vais me taire. Par rapport à ça.
Je vais me taire.
Je me tairai.
Mais simplement.
Bon. Eh bien, on verra tout à l'heure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous pris. On est tous pris dans un rapport à la mère. Et l'homme se démerde avec sa femme parce que pour lui, c'est une mère. Alors, disons des choses aussi simples que ça. Et que la mère, ben, elle a ça, effectivement, ben, qu'elle se débrouille comme elle peut, parce que c'est pas facile. Alors c'est pour ça qu'il y a la nomination du père, peut-être. Mais on est pris dans des trucs comme ça, et quand on a été beaucoup aimé par sa mère, ben, tant mieux, mais il faut en sortir. Et si on n'a pas été aimé par sa mère, et ben, c'est dramatique. Et voilà, il faut en sortir quand même. C'est pour ça qu'on vient parler de quoi? On vient parler de quoi quand on fait une analyse? Mais on vient parler de ça. Mais on parle de qui? Ben on parle de ça, de la femme, on parle des gens, des salades dans lesquelles on est pris. Mais en fait, derrière tout ça, il y a effectivement le rapport à la mère. Alors, à qu'est-ce que ce serait d'en aider la femme? Qu'est-ce que ce serait d'en m'aider? Qu'est-ce que ce serait la femme d'en m'aider? Parce que ça, c'est l'actualité. Ça démarre 2000 ans avant Jésus-Christ, elle est l'église de m'aider. Mais c'est toujours d'actualité. À mon avis, accrochez-vous.
Oui, oui, oui.
Allez, bon, on a... À mon avis, hein. Il y a déjà nunc media sum, enfin media nunc sum. C'est-à-dire que la dimension de la femme en regard du langage, c'est la question du signifiant. C'est pas du tout la femme telle qu'on peut la voir dans son corps. Ça, c'est l'objet du fantasme. C'est les caractères sexuels secondaires qui vont différencier effectivement côté homme, côté femme, en sachant qu'il y en a plein qui sont, on ne sait pas où. Ils se débrouillent comme ils peuvent entre les deux. Et chacun se débrouille, par exemple. Et le fantasme, ben ce qu'on appelle l'objet du fantasme, ce qu'on appelle bandit, tout ça, ça s'adresse à quoi? À l'objet du fantasme, évidemment. L'homme, il réduit la femme à ce qu'on appelle l'objet petit A, le réel de l'objet A, et puis il peut baiser. Sinon, il ne peut pas baiser. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça qu'on apprend dans une analyse. Donc là, effectivement, ce n'est pas la mère. Et s'il n'arrive pas à faire ça, il ne peut pas baiser. Voilà, ça c'est une vérité clinique, toute simple. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que peut une femme? Il peut trouver un jour une femme, pas la femme, une femme ou un parrain avec laquelle tout peut arriver. Et c'est ce que fait Médée. Elle fait n'importe quoi pour Jason, mais elle est prête à y aller, comme dit Lacan, elle est prête à faire concession de ses biens, de son corps, de son âme, de sa magie, elle fait tout, elle est prête à n'importe quoi, elle fait tout. Et puis un beau jour, parce que nous, à mon avis, ce que nous apprend ce mythe là parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Ça est toujours d'actualité, c'est ce qui se passe à la fin. C'est pas du tout qu'elle a abandonné par Jason, ça c'est des histoires. Bien sûr qu'elle a abandonné, mais bon, puis alors, c'est des histoires comme ça. Ben, puis alors, même si elle y est, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est qu'il y a un moment, elle se rend compte, ben c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas ça. Je te demande de me refuser ce que je t'offre. Ça, c'est elle qui se détache. Bien sûr que les deux mecs qui ont écrit en Euripide, ils ne pouvaient pas l'écrire comme ça. Donc, et puis elle s'en va pourquoi? Pourquoi elle s'en va? Alors, à mon avis, à un moment, elle dit, avant de partir, elle dit une chose extraordinaire. Elle s'adresse à Jason. Reconnais-tu ta femme? C'est les derniers mots.
Oui.
Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais prenons ça comme un mot d'esprit. Surtout pas du côté de la mort du cygne. Surtout pas en comprenant qu'est-ce qu'il lui dit. Ah, qu'est-ce qu'il lui dit? Je sais pas, mais elle introduit un signifiant femme. C'est sûr. Alors là, si on entend ça quand quelqu'un nous parle, et non pas si on est pris par tout ce qu'il nous raconte, les histoires horribles qui se sont passées dans sa généalogie, et puis tous les trucs, et puis peut-être qu'on va entendre autre chose à ce moment-là. Peut-être qu'on va arrêter la séance là-dessus. Peut-être qu'on va entendre un éclat de voix particulier sur ce mot-là, à ce moment-là. C'est ça le discours. C'est ça le discours. C'est ça l'objet. C'est ça la jouissance. Alors est-ce que ça peut exister dans le théâtre? C'est ça ma question.
De la mère à l'enfant, ça me fait penser à des lits de malheur qui sont, je sais pas que vous connaissez peut-être, où l'enfant dit chaque fois mère ou maman, je sais plus, donne-moi du lait, donne-moi à manger, et la mère chaque fois elle dit j'ai pas le temps, je ne peux pas, attends un peu, etc. C'est tout un lit jusqu'à ce qu'à la fin l'enfant meure. Donc, dans ce texte, enfin, c'est une sorte de chanson, dans ce texte, on voit bien que la mère, enfin, il y a une sorte d'ambiguïté, la mère, elle est là pour nourrir l'enfant, mais en fait, elle est là, elle essaye aussi de se détacher de l'enfant, et puis elle n'est pas là que pour l'enfant non plus, et l'enfant finit par mourir. Et on voit bien, là, il y a...
Moi, je crois que la mère ne peut jamais se détacher de l'enfant.
C'est l'enfant qui, un jour, parce qu'il en a bavé et il a furminé sur les. Alors, sur toutes sortes de trucs qu'il va raconter pendant des années et des années et des années. On appelle ça la dimension de l'usage, la fonction de l'usage en psychanalyse. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas du tout ce qu'on raconte, c'est qu'il faut passer par des mots, les user. Ça, c'est la question du théâtre, peut-être. Il faut passer par les mots, les user, les user, les user, les user, les user. C'est par essence que je dis, hein, Saint-Augustin, il parle de ça. Pour arriver un jour, de passer de ce passage de l'outil. Hein, aux fruits. L'enjeu, c'est que quand quelqu'un parle, premièrement, ce qui compte, c'est pas du tout comment il est habillé, comment il arrive, quel pas il fait, etc. Aucun avis là-dessus, rien du tout. Et il se met à parler comme il peut, il en bave beaucoup pour se mettre à parler, il bafouille, il bredouille, il essaie d'avancer là-dedans, et à un moment, il ne sait pas pourquoi, il est dépassé par quelque chose. C'est ce qu'on appelle le surgissement du réel. C'est pas le réel au sens de la réalité, hein. C'est-à-dire que ce qui était ce nouage réel, symbolique, imaginaire, à un moment, pof, il y a quelque chose qui se dénoue et qui apparaît. Et c'est ça. Et logiquement, on arrête la séance là-dessus. Voilà, logiquement. Surtout pas l'explication. Il faut, à mon avis, il faut surtout pas laisser continuer parce qu'immédiatement, il recouvre tout. Ben oui, ça s'appelle la censure. La pensée, si vous voulez. Hein, la pensée, la censure, c'est la pensure. Voilà. La pensure, dès qu'on pense, on censure. On ne peut pas penser. Mais j'ai rien contre la pensée. M'a dit Jean Moulin au philosophe. Pas du tout. J'essaie de différencier ce que peuvent dire des philosophes, ce que peuvent dire des psychanalystes, s'ils articulent à leur expérience, s'ils articulent à ce qu'ils lisent par rapport à ce qu'a dit un chez nous ou un autre, ils sont plus dans leur expérience. Ils sont dans une pensée qui est, eh ben, hein, vous savez, le chien de l'écriture qui revomit ce qu'on se donne à bouffer, là. Ben, ça va plus, là. Hein. Le problème, c'est comment, qu'est-ce qu'on entend quand quelqu'un parle. C'est ça. Et je crois que c'est proche du théâtre, ces affaires-là, ou de l'opéra. Qu'est-ce que... Et pas, c'est pas qu'est-ce qu'on pense, c'est qu'est-ce qui peut être entendu quand quelqu'un se met à parler. C'est ça. Et Freud est allé plus loin en disant, mais dites n'importe quoi, en sachant très bien qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'entend quand quelqu'un se dit, hein, qu'on dise reste oublié, derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. C'est le début de l'étourdie dont je parlais tout à l'heure. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui peut être entendu d'autre que ce que l'on va penser, ça c'est le signatum, dans le fait que quelqu'un vient parler. Et pourquoi il revient? Mais il ne revient pas parce qu'on lui donne des explications. Il vient parce qu'il suppose sans doute qu'il y a une présence qui le laisse parler et qui, d'une façon ou d'une autre, le fait de parler, ça va le conduire à trouver, alors là c'est un mot qu'il faut user avec prudence, hein. Ça s'appelle la jouissance qu'il faut pour que la vie continue. Dans le fait de parler, il y a de la jouissance. Mais pas au sens du plaisir, c'est pas l'hédonisme. Hein. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Si on est là pour parler, c'est pas. On s'affronte un peu comme ça. Mais il y a des joutes comme ça, mais c'est parce qu'il y a une certaine jouissance à parler. Bien sûr, c'est pas jubilatoire. Hein. Parce que dès qu'on parle là-dessus. Or, non sum, media non sum, tu as pu remarquer que juste après, il y a un verbe qui vient quatre fois. Tu as vu qu'ils étaient Yuvat. Yuvat à quatre reprises. Mais c'est horrible. Elle dit qu'elle. Alors ça a été traduit par heureux. C'est pas heureux du tout. Tu as fait un peu de latin. Vous entendez bien dans Yuvat qu'il y a, joue quoi ? Jouir quoi ? Jouir, il n'y a pas besoin de. Hein, lever, c'est comme. Il suffit de suivre les voyelles quoi. Hein. Jouir de choses horribles. Mais ce qui compte, c'est pas qu'elle dise qu'elle a joui de choses horribles. C'est quel mot je vous vaille. C'est ça la psychanalyse. C'est ça le signifiant. Vous avez compris, d'abord ?
Non, il est passé à côté complètement.
Ah ouais.
C'est ça la théorie. Il n'a rien compris.
Il n'a rien compris.
À 600 de l'aide.
Il n'a rien.
Il n'a rien que du feu.
Il n'a pas compris que, alors si vous rappelez l'histoire de la robe qui brûle, ben c'est quoi ? C'est que finalement, ben, on aime quoi ? Ben, on aime la parure, on aime le sang blanc chez l'autre, c'est tout. Donc évidemment, mais elle lui fout devant le nez. Hein ? Alors c'est pas du tout l'autre qui brûle dans son. C'est pas ça. C'est que la robe qui brûle, c'est vraiment le sang blanc. C'est-à-dire que c'est l'image spéculaire pour nous. Hein ? C'est-à-dire que, évidemment, si je vais dire ça à un juge d'instruction, il va me dire ça va pas, hein ? C'est pas vrai. Si vous... Non, mais c'est ça en fait. Chez quelqu'un qui parle, ce que j'essaie de vous transmettre, c'est que chez quelqu'un qui parle, c'est ça. C'est pas les faits qui comptent. Hein ?
C'est autre chose. Sinon, on n'est pas dans l'histoire d'humanité. On n'est pas dans ce truc réel, imaginaire, symbolique. On est dans le discours commun, quoi. C'est-à-dire le discours sur Moïse, le discours censuré, le discours où tout s'explique, le discours où il y a des horreurs. Ben, bien sûr qu'il y a des horreurs. C'est évident, mais il n'y a pas que des horreurs non plus. Il peut y avoir autre chose que des horreurs. Mais des horreurs, c'est sûr qu'il y en a. Donc la vengeance, pourquoi pas? Mais, et alors, ça va pas loin. Parce que d'emblée, on a tout compris. C'est ça que je veux vous dire. C'est comme ça que je peux vous répondre. Bien sûr, peut-être, après tout, pourquoi pas. Mais à partir du moment où quelqu'un se venge, c'est fini. Hein. La mort du signe, la septième loi, tout compris, se venge.
Oh!